13h03, continuez d'interagir avec nous à l'émission On en jase au 418-971-1021. Toujours un bonheur de vous lire. Vous avez été plusieurs à réagir sur problématique des chauffeurs à rabais. On nous dit qu'il faut vraiment que le gouvernement fasse quelque chose. Hein. On le rappelle, Pascal. Deux élus libéraux qui ont été vus dans un rassemblement, dans un événement d'une organisation qui appuie les chauffeurs à rabais. Donc, ça nous laisse très perplexes. Claudia Boucher, une victime, justement, d'un accident de la route causé par un chauffeur à rabais, a témoigné avec nous. Ça sera sur le blvd.fm immédiatement après l'émission. Également sur le blvd.fm, vous allez retrouver notre entrevue avec Laurent Dubreuil. Quel beau porte-parole en matière de sport et d'activité physique chez les jeunes, qui a réussi à faire flancher le gouvernement, investissement majeur de 750 millions dans le sport avec la mise à jour économique. Ce qui s'en vient dans l'émission, c'est Étienne-Alexandre Beauregard, ex-rédacteur de discours pour François Legault. On va parler de cette culture de l'annulation. Hein. Il y a des gens qui ont dit « Hey, la librairie La Liberté, pourquoi vous avez amené Éric Duhaime pour son lancement de livre? » Ben parce qu'Éric Duhaime a le droit d'écrire un livre puis de parler de sa prise de position. « Hey, Jean-Pierre Roy, t'as pas d'affaire à présenter ton, ton documentaire sur Génération Trans au Cinéma Quartier. » Là, malheureusement, les propriétaires du Cinéma Quartier ont dit « Ouais, devant la pression, on présentera pas. » On va parler de ça. On va parler aussi de cette dérive sur les ondes d'ici Première Radio-Canada cette fin de semaine entre l'animatrice Marie-Josée Arsenault et un professeur, philosophe Xavier Brouillette, où on dit que PSPP veut contrôler les utérus des femmes. Donc, c'est clair qu'on parle de ça avec Étienne-Alexandre Beauregard. En fin d'émission, on aura Alex Laramé avec sa chronique sportive, match du Canadien ce soir. Et entre les deux, on va parler avec Georges Hinny, qui est président de l'Association pour la protection des automobilistes. Apparemment qu'on achèterait des véhicules électriques à rabais, Pascal, mais que le... Ben, pas apparemment, c'est un cas vécu par Megan Fortin, une jeune étudiante dans la région de Mascouche. Mais le concessionnaire, à la base, peut effacer l'historique et faire en sorte que tu ne sais pas que ta batterie va être à remplacer bientôt. Tu achètes le véhicule 10-11 000, tu te retrouves avec une facture équivalente pour une nouvelle batterie quelques mois plus tard. Comment faire pour éviter ceci? T'as pas d'argent pour t'acheter un char à 20 000, mais t'as pas le choix de dépenser 20 000 sur son char, finalement. Donc, Georges Hinny va nous renseigner là-dessus. Pascal, avant les manchettes, faut absolument que je te fasse entendre ce beau moment, hier, avec notre hymne national canadien.
Oh, Canada, our home and native patriot love.
T'sais, là, le micro lâche, là. Caroline Pascal, on est au Canada. Tout le monde chante l'hymne national. Ah, ça doit être le match des Oilers d'Edmonton. Non, c'est un gars qui chante dans les estrades, les Oilers. Les Canadiens ne jouaient pas hier. Les Sénateurs d'Ottawa sont éliminés. Ça s'est passé à Buffalo hier soir. J'ai vécu le moment en direct. Je venais de partir le barbecue en revenant du gym. Puis là, tout à coup, je m'approche parce que j'entends l'hymne national canadien, puis je me dis, mais voyons, le match est à Buffalo. Et là, j'entends ça, ce micro lâcher, et la foule se met à chanter le Haut-Canada. Quand on dit que le sport rassemble, là, on entend au Canada, ah, les maudits Américains, ah, le maudit Donald Trump, puis là, la guerre États-Unis, Canada. Ben hier, à Buffalo, Buffalo qui fait toujours l'hymne national canadien par respect pour ses partisans qui viennent du Canada, parce que la ville de Buffalo est à 5 000 seulement, donc à peu près 10 km de la frontière.
Ouais.
Alors, 50 % de leurs billets de saison vendus sont des Canadiens qui viennent voir le hockey à Buffalo. Alors ça, premièrement, c'est de grande classe pour l'organisation de chanter l'hymne national canadien, même si c'est un match entre deux équipes américaines.
Pourquoi on chantait l'hymne national canadien quand c'était deux équipes américaines?
Exactement pour ça, parce que Buffalo, 50 % des partisans viennent du Canada,
okay,
compte tenu que c'est proche de la frontière.
Pour cette raison-là.
C'est pour... Okay. C'est pour...
C'est pas juste proximité, c'est comme au total.
En
on a
ça.
Fait le calcul. OK, c'est
par
bon.
Par respect pour leurs partisans canadiens, on s'est dit, on fait l'hymne national à chaque match, ce qui est extraordinaire, comme marque de respect.
Ah ben, je trouve que... Écoute...
Et là, hier, les Canadiens ont chanté leur hymne national.
Je trouve ça classe.
C'est fou.
Je trouve que c'est d'une classe sans bon sens, puis... probablement que Donald Trump n'a pas aimé la scène si c'est venu à ses oreilles.
Mais moi, j'aime ça.
Ça veut dire à quel point on est capable d'être proche quand même des États-Unis, puis que dans ce débat politique-là, parce que moi, je le ramène un peu à la politique malgré tout, tu sais, il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui est à ne pas oublier, qui probablement shake aussi du côté des États-Unis. Parce qu'on a vu aussi une demande de passeport canadien en augmentation assez importante dans les demandes américaines pour venir ici. Ils cherchent là, jusqu'à leur deuxième arrière-grand-mère, savoir si on a des racines canadiennes du côté des États-Unis pour l'avoir. Je trouve que le sport est fait souvent écho de ce qui se ressent. Puis écoute, moi, j'ignorais, tellement que j'ai reposé la question, j'ignorais que le fait que ça soit aussi près du Canada, il y a autant de partisans, puis qu'on les considère même. J'aurais pas pensé qu'aux États-Unis, on ait considéré ne serait-ce que ceux qui prennent
Ah non, c'est ce qui est beau, puis c'est pour ça que ça me permet un petit message éditorial aussi. C'est quand on dit « Ah, on n'ira pas voyager aux États-Unis parce que le maudit Trump... » Ben oui, il y a le maudit Trump, mais il y a les Américains qui ont énormément de respect pour nous, Canadiens, et on l'a vu hier dans les estrades des Sabres de Buffalo. C'était un moment de toute beauté. En attendant, Étienne-Alexandre, Beauregard, Pascal, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Oui, mais ça vient de sortir, là, 99 occupants de la résidence privée pour aînés le long des berges. Ça, c'est au bord de la rivière Saint-Charles, donc c'est une RPA. Ils vont devoir se trouver un nouveau milieu de vie. C'est énorme, là, honte de choc quand même.
Vraiment?
99 personnes là, en situation quand même d'âgisme et de problématiques, en fait, dans un contexte où c'est déjà difficile de se trouver un milieu de vie. Nouvelle qui est tombée hier, résidence qui va fermer les portes l'automne prochain après 30 ans d'activité. Nouvelle tombée hier pour les résidents, mais il y a quelques minutes pour tous, donc les propriétaires de l'établissement à Limoilou qui comptent 106 unités locatives qui n'ont pas trouvé repreneur. Et ça, ça commence à faire un autre dossier, puis un autre dossier, puis un autre dossier qui s'accumule. C'est la troisième fermeture dans la capitale nationale. Alors, deux autres établissements pour un total de 34 unités locatives qui ont annoncé leur fermeture. En 2025, on est à trois établissements aussi. Ça retire 237 unités locatives sur le marché. C'est énorme.
C'est énorme. Là,
ça va être très difficile.
Et d'autant plus qu'on est dans une population qui vieillit davantage. Oui. Donc, va falloir rattraper ça et même en construire davantage.
Une autre nouvelle un peu plus locale, cette fois-ci du côté de la Rive-Sud, c'est l'administration Blainey qui veut bâtir malgré la réserve de ses ingénieurs. La réserve, ça veut dire où? Le pas de recul. Pourquoi? Sur les eaux usées. Donc, on vient d'autoriser la construction d'immeubles de 4 logements dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome. Mais son propre département de génie a levé un drapeau rouge. On a dit non, on n'est pas capable. La capacité de la station de traitement des eaux usées est pas bonne pour accueillir de nouveaux développements immobiliers. Ça pourrait poser problème. C'est un document qui a été soumis aux élus hier, mais on a quand même été de l'avant avec tout ça et ça fait un certain malaise aussi avec l'administration Blainey. Donc, on va suivre ça de près. Aujourd'hui, la nouvelle principale pour la province, c'est que la première ministre Christine Fréchette a annoncé une baisse d'impôts qui va profiter à 75 000 petites entreprises. C'était écrit dans la presse. On notait que c'était pas une mesure qui était dans le dernier budget provincial en mars dernier et qui ne figurait pas non plus dans les promesses faites par Mme Fréchette lors de sa course à la chefferie. Alors, on se demande est-ce que c'est un peu électoraliste? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Les conséquences? On est dans cette évaluation-là. Et je vous parlais du dossier santé numérique, comme quoi que ça continue de faire les manchettes pour les mauvaises raisons. Le déploiement est toujours prévu pour le 9 mai.
Ouais.
Santé Québec tient son bout là-dedans, mais il y a plusieurs acteurs du plancher qui disent « Moi, non, c'est pas une bonne idée. » Et le docteur Daniel Vier en avait ajouté une couche aujourd'hui dans le Journal de Québec. C'est un médecin spécialiste en diagnostic et en traitement des maladies complexes. Et il avait dénoncé que le déploiement du DSN va entraîner des retards dans les traitements et les suivis de cancer. Et ça fait réagir, ça inquiète. Tellement que là, on est en train de réagir aussi du côté du gouvernement. Là, on a comme repris cette information-là et on y a répondu. On dit que les cas urgents de cancer seront maintenus malgré les retards prévus et c'est ce qu'assure Québec. Donc, on est en train de se retirer la balle, mais qui dit vrai? Il est là le problème.
Exactement. Donc, à suivre, mais somme toute, il faut prendre soin des gens qui sont atteints d'un cancer et leur donner un traitement très rapidement. Chaque jour compte lorsqu'on est atteint, malheureusement, de cette maladie. On va à l'instant même rejoindre Étienne-Alexandre Beauregard, ex-rédacteur des discours de François Legault et analyste politique ici sur les ondes de Boulevard 102. Étienne-Alexandre, comment vas-tu?
Ça va très bien, vous autres?
Ça va super bien. Étienne Alexandre, Olivier Niquet de Radio-Canada s'amuse à rire de stations de radio de Québec à coups d'extrait dans son émission La soirée est encore jeune. Mais nous, on va se permettre une petite pointe à l'endroit de Radio-Canada et de cette dérive sur la natalité au Québec. Je te laisse entendre Marie-Josée Arsenault, animatrice ici première. Marie-Louise?
Oui, c'est Marie-Louise Arsenault.
Ah, j'avais mal noté. Merci beaucoup, Pascal Cévé. Marie-Louise Arsenault et Xavier Brouillette, professeur et philosophe. Ils parlent du taux de natalité, de la politique de natalité de Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois.
Le travail rémunéré, souvent associé aux hommes, mais aussi le travail non rémunéré des femmes invisibilisées à la maison, dont le rôle était la reproduction de la force de travail.
C'est le contrôle de l'utérus.
Exactement. Ouais. Et donc, de ce point de vue-là, on va quand même parler, Nancy Fraser, d'expropriation, l'expropriation, en quelque sorte, des femmes de leur propre corps. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. On a besoin de reproduire la main-d'œuvre et cette reproduction-là demande de produire des enfants. Et de ce point de vue-là, d'une certaine manière, la femme devient essentiellement, l'image de la femme est associée à l'image de la mère de famille, celle qui produit les enfants, associée à l'espace domestique. Donc, de ce point de vue-là, les politiques natalistes de Paul Saint-Pierre Plamondon, peu importe la justification qu'il dit, c'est quand même une certaine manière d'instrumentaliser le corps des femmes du point de vue, de ce point de vue-là, en fait, de la nation.
1,3 enfants moyenne par couple, donc par famille au Québec. Le nombre désiré par ces couples-là serait de 2,1 enfants. Donc, on s'entend, les gens veulent au moins une famille de 2 enfants, mais n'y arrivent pas, notamment en raison du coût de la vie. Et là, quand Paul Saint-Pierre Plamondon dit ça, bien, il prend possession du corps de la femme. Étienne Alexandre, aide-moi, je ne comprends pas.
Bien, je t'avoue que moi non plus, j'ai pas trop saisi la logique. Là. C'était assez tiré par les cheveux comme intervention. Je pense que ceux qui ont critiqué cette intervention-là étaient aussi dans le brouillard que nous. D'autant plus que M. Plamondon, à ma connaissance, n'a pas encore dévoilé de politique. Donc, si prise de contrôle du corps de qui que ce soit, il n'a pas encore dévoilé son intention. Il a juste, à l'instar de 4 partis sur 5 en ce moment à l'Assemblée nationale, affirmer que pour lui, c'était un problème que les femmes, les familles n'aient pas autant d'enfants qu'ils le désirent. Puis ça, je pense qu'on ne réalise pas à quel point M. Brouillet puis Québec solidaire aussi, qui n'aimait pas trop là, toute la question de la famille, sont seuls dans leur coin. Parce qu'on regarde dans les dernières semaines, là, il y a eu une sortie de Marois Risky qui a été très médiatisée sur cette question-là. Mais Karianne Bourassa, à la Coalition Avenir Québec, ça fait des années qu'elle parle de son propre parcours avec la fécondation in vitro, comment elle s'est battue pour devenir mère. Oui, le Parti québécois a embarqué dans le train aussi. M. Duhaime a dit aussi que pour lui, c'était une préoccupation que les gens puissent avoir des enfants s'ils en veulent. Donc, en fait, ils sont assez seuls dans leur coin à penser ça. Ça semble être assez général au Québec. On se dit que c'est une question qu'on a le droit de se poser puis qu'on devrait même se poser. Là.
Avant de poser une question, je veux juste dire que sur Henri IV-Sud, c'est le début de la sortie vers le chemin des quatre bourgeois. C'est partiellement entravé. Il y a un véhicule lourd qui est en panne et je le mentionne parce qu'avec la congestion un peu partout, des fois, il y a des endroits que si ça s'ajoute, c'est encore plus complexe. Alors, c'est dit Henri IV-Sud, début de la sortie vers chemin des quatre bourgeois, partiellement entravé, véhicule lourd en panne. C'est une chose, les gars, dont on discute en ce moment, qui est très sensible. Puis je pense que le fait d'aller dans les extrêmes, hein, l'un ou l'autre, premièrement, les droits de la personne, on va, j'espère, toujours les respecter au Québec. Il faut continuer d'en parler, il faut continuer de plaider pour. Là. Mais c'est tellement compliqué. Puis on se rend compte que beaucoup de femmes, du moins dans trentaine, là, à mon âge, tentent de tomber enceinte. Puis des fois, ça s'extensionne sur 4, 5, 6 ans, on va jusqu'à 7 ans. D'abord, il faut que tu prouves que tu n'as pas été capable d'avoir un enfant par toi-même, par voie naturelle. Ensuite, tu as insémination, ça veut dire, bon, la récolte de ton conjoint te fait, t'es inséré en toi, là, veux pas. Et parfois, ça va prendre jusqu'à 6 essais. Puis là, ça veut dire que si ça ne fonctionne pas, tu attends un mois, là. 6 essais avant d'aller dans in vitro. Pour que tu aies cette subvention-là. Donc, pensez-y, là, le nombre d'années là, qui allongent la chose. Puis, il y en a beaucoup qui en souffrent. Donc, d'entendre qu'ils ne font pas leur part ou quoi que ce soit, ça peut être sensible. Là. Puis, de fermer le débat à se dire, regarde, je comprends là, qu'il manque peut-être de naissance au Québec, mais qu'est-ce qui a causé ça? Au lieu de dire, on est en train de vouloir contrôler des gens.
En effet, c'est peut-être clairement là le raison. Problème.
Ben oui, mais je pense qu'est-ce qui a causé ça? il n'y a pas que ça, mais le coût de la vie, ça en fait partie. Tu sais.
Ben oui.
Puis je pense quelque chose qu'on devrait s'inquiéter, c'est pourquoi l'âge de la première parentalité, parce que c'est vrai autant pour les gars que les filles, n'arrête pas d'augmenter. Moi, ma petite théorie là-dessus, en tant que gars de 25 ans, c'est que les étapes de la vie adulte qu'on franchissait avant un certain âge n'arrêtent pas d'arriver plus vieux, que ce soit l'entrée sur le marché du travail, parce que maintenant, on exige des diplômes toujours plus élevés pour les mêmes jobs que nos parents avaient avant, que ce soit l'accès à la propriété, que ce soit même justement déménager de chez ses parents aussi, là, c'est lié, c'est pas exactement pareil, mais quand même, tout ça arrive plus tard. Fait que moi, je pense que c'est vraiment une question. Puis moi, quand j'en parle aux gens qui sont à peu près de mon âge, aussi, il y a comme une petite frustration par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a comme une question générationnelle en arrière de ça aussi, de dire, il y a des gens qui disent, OK, j'aimerais ça commencer ma vie, j'aimerais ça arriver comme à l'étape d'après, mais c'est comme si le contexte économique en ce moment n'était pas vraiment propice à ça. Puis ça, d'ailleurs, quand on regarde les stats, là, beaucoup d'études sur cette question-là qui vont vous dire que les périodes d'incertitude économique ou les périodes d'inflation, pas surprise, mais choc, ça a un impact sur la fécondité aussi, parce que les gens y arrivent moins, ils disent « OK, mais je suis moins capable de me projeter dans l'avenir, est-ce que c'est le bon moment? » Fait que c'est tellement multifactoriel, mais c'est pas vrai, par contre, qu'on doit rester sur la ligne de côté, se croiser les bras, puis dire bah, « Regarde, c'est tant pis pour eux autres ou c'est parce qu'ils en veulent pas. » Puis c'est là que moi, j'ai de la misère quand on nie qu'il y a un écart entre ce que les gens désirent, puis ce que les gens sont capables d'avoir en ce moment, puis que oui, le gouvernement peut faire quelque chose, parce que la qualité de vie des gens, ça fait encore partie des priorités de nos politiciens, je l'espère.
En effet, puis en faisant quelque chose, Étienne Alexandre, corrige-moi si je me trompe, mais ça va être vraiment en travaillant sur le coût de la vie, donc en donnant plus d'accessibilité à la propriété, en diminuant les impôts, en diminuant les taxes, en donnant un souffle aux contribuables.
Puis j'ajoute encore, les gars, là, que le coût de la vie, mais il y a le coût aussi de ce que ça a pour être aidé.
Ben oui, en effet.
Que tu n'es pas capable de tomber enceinte, là.
Absolument, absolument. Bon, cela dit, moi, j'ai jamais vu des chiffres sur la part insémination artificielle, etc. Mm-hmm. Fait que je me demande toujours la proportion dans ça. Je peux pas me positionner là-dessus. Là. Cela dit, la question du régime québécois d'assurance parentale, on pourrait aussi en parler, Mme Risky l'a mentionné. Puis ce qui est quand même intéressant en ce moment, c'est que la caisse du RQAP est excédentaire. Vous le savez, là, vous voyez vos chèques de paye. Il y a une case particulière qui part là. Ça fait pas partie du fonds général du gouvernement. Et ben, depuis plusieurs années, justement, en raison de la baisse de fécondité, on a une caisse qui est excédentaire. Fait qu'à ce moment-là, on pourrait certainement se poser la question de dire est-ce qu'il faudrait que les prestations soient plus longues? Est-ce qu'il faudrait que ça soit mieux compensé? Parce que c'est vrai que, puis d'ailleurs, la plupart des parents vont choisir le régime à 55% pendant un an plutôt que 75% pendant moins de temps. 55%, c'est pas une si grosse partie du revenu que ça. Fait que oui, il y a un coût de renonciation. Puis considérant les moyens qu'on a, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réduire ce coût de renonciation-là pour que ça soit plus facile pour le portefeuille aussi? Fait que c'est toutes des questions qu'on devrait se poser. Je pense qu'en voulant mettre un verrou là-dessus, comme M. Brouillette a tenté de le faire à Radio-Canada, comme quoi ça serait intrinsèquement mauvais d'avoir cette discussion et cette réflexion-là, on n'avance pas parce qu'il y a un enjeu. Là.
Ça m'amène, Étienne Alexandre, à te parler de cette culture de l'annulation. On vient de vivre deux événements dans la région de Québec qui le prouvent. Le premier, Jean-Pierre Roy, avec son documentaire Génération Trans, où il remet en question le fait que des jeunes à l'âge de 14 ans peuvent prendre la décision de changer de sexe. Ça a été annulé au cinéma Cartier devant justement l'insistance de gens qui étaient contre le documentaire. Et là, pas plus tard qu'hier, on apprenait que la librairie La Liberté a également aussi reçu des messages haineux en raison qu'elle a permis à Éric Duhaime de s'installer pour le lancement de son livre. Pourquoi la gauche aussi bord de débattre, Étienne Alexandre?
Ben, je ne sais pas. Puis moi, honnêtement, la question que je me pose, d'ailleurs, tu te rappelleras, Jeff, la conférence du PQ à l'Université Laval.
Ben oui, exactement, qui est un autre exemple. Hey, tu nous avais parlé, justement.
J'ai eu le malheur d'être un participant, absolument. Mais moi, quand je vois ça, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe à Québec? Parce que, il me semble, c'est le genre de choses qu'on voyait à Montréal avant. Puis ça fait trois choses en quelques semaines.
Québec n'est pas rendu woke.
Ben, c'est ça que je me demande. Je me dis, on dirait le monde à Montréal, ils se sont calmés. Puis là, la vague est arrivée à Québec. C'est-tu le creux de vague? C'est-tu les restes? Je sais pas exactement.
C'est quoi,
ce
Montréal a déménagé à Québec parce qu'on est une trop belle ville? Hey, on va commencer à avoir des nids de poules, guys, là.
J'espère que non. J'espère que non. Moi, c'est une expérience traumatique qu'on dure à Montréal avec les nids de poules. Mais pour vrai, je me demande vraiment qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, qu'est-ce qui se passe. Puis je pense que cela dit que il faut montrer quand même le positif au sens qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont se mettre la tête sur le bio pour défendre ça, en disant que c'est légitime qu'une telle chose arrive. Surtout, à la librairie de la Liberté, qui a reçu, je pense, un mois avant le lancement de livre de Rouba Gazal, qui fait la même chose pour Éric Duhaime, c'est quoi l'enjeu, là? Puis même, d'ailleurs, même si c'est une librairie qui disait on est ouvertement de droite puis on ne reçoit que le PCQ,
il n'y a pas d'enjeu.
C'est une entreprise privée, c'est une entreprise privée, à ce que je sache. Fait qu'ils ont le droit de recevoir qui ils veulent. Puis ça serait très malheureux qu'ils soient victimes d'un boycott ou quoi que ce soit. Mais là, je pense que c'est un peu l'inverse qui se passe. Hein. Il y a une espèce de boycott, là. J'ai vu quelques personnes, Jacinthe Varel, que vous connaissez bien.
Oui.
Jérôme Landry, compétiteur, qui sont allés acheter, des livres là aujourd'hui. Moi, c'est une librairie que j'apprécie beaucoup. Fait que j'invite tout le monde à y aller. Ils ont un excellent répertoire. Fait que non, c'est ça. Je pense qu'il y a un peu l'effet inverse là, au sens où les gens sont assez tannés. Puis quand tu vois ça, ils disent, ben regarde, une entreprise qui a le courage de ses convictions, qui a le courage de défendre la liberté d'expression, ben, peut-être que ça vaut la peine qu'on aille acheter là.
T'as entièrement raison. Hey, si moi, là, je pense que ça serait bien d'ouvrir le débat parce que je me dis que on veut interdire les boissons énergisantes pour les moins de 16 ans. On veut interdire les médias sociaux pour les moins de 16 ans. On interdit déjà l'alcool et la cigarette pour les moins de 18 ans. Puis le consentement sexuel est à 16 ans. Si je veux ouvrir le débat pour dire que 14 ans, c'est trop jeune pour changer de sexe, je vais-tu être associé à une droite radicale ou c'est juste normal que je me pose cette question-là?
Ben, c'est sûr, moi, je tends à être d'accord avec toi sur cette question-là. Mais fais attention, peut-être que les annonceurs de boulevard vont avoir des appels. On est une radio à Québec, puis maintenant, il n'y a plus personne à Québec qui est en sécurité.
Je suis plus safe de dire ça, là. C'est ça que tu es en train de me dire.
Pense-y.
Pourtant, je trouve ça juste logique.
Ben, honnêtement, oui. Puis, tu sais, on s'entend, le gouvernement a mandaté un comité de sages aussi sur cette question-là dans les dernières années. Il n'y a pas eu de suivi conséquent sur les questions de santé par rapport à ça, alors que je pense que l'inquiétude de la plupart des gens par rapport à ce phénomène-là, c'est vraiment quand ça touche les mineurs, quand ça touche des je n'appellerai pas ça des soins, mais des procédures médicales qui sont irréversibles. Puis là, moi, je pense qu'il y a une question à se poser parce qu'effectivement, c'est comme tu dis, ici, on juge que pour certaines décisions dans la vie, pour quelque chose d'aussi banal que de voter, on n'est pas assez mature. Ben, est-ce qu'on est mature pour prendre des décisions qui vont avoir un impact pour l'ensemble de notre vie? Et ça, c'est pas invalider le droit de s'identifier comme personne trans ou d'avoir une reconnaissance légale de ça, mais c'est toujours la question du moment, puis c'est quoi l'encadrement, puis c'est quoi aussi les choses qui sont médicales, puis qui sont intrusives, qui viennent avec ça. Fait que je pense que c'est des questionnements qui sont tout à fait légitimes, puis peut-être que le gouvernement va y mettre un peu d'attention. On en entend un peu moins parler qu'avant, mais en tout cas, certainement que ça ne mérite pas d'être, quand sais-je, exclu du débat public parce qu'on se pose ces questions-là. La plupart de nos concitoyens, se posent une question.
C'est clair. En terminant, Étienne Alexandre, qu'est-ce que tu penses des premières semaines de Christine Fréchette à titre de première ministre du Québec? Crois-tu que les actions qu'elle pose actuellement, notamment ce qu'elle a fait aujourd'hui pour les PME, vont faire monter la CAQ dans le prochain sondage?
Bien, je pense qu'il y a toutes sortes de mesures qui te veulent une réponse à la question du coût de la vie, que ce soit pour les individus, pour les entreprises. On s'entend, je pense, le premier acte de Mme Fréchette, ça a été quelque chose pour l'accès à la propriété sur les taxes de bienvenue.
Oui.
Après ça, on doit annoncer une mesure pour l'épicerie, qui, je pense, n'a pas été encore exactement fignolée, là, donner un mandat à M. Girard. Là, aujourd'hui, on est arrivé avec toute la question des baisses d'impôts pour les petites entreprises. Mais moi, honnêtement, si j'étais dans son cabinet en ce moment, pas sûr dans lequel j'ai déjà été avec un premier ministre précédent, je dirais il faut trouver la cohérence derrière tout ça. Il faut trouver comme le fil directeur que tu vas être capable d'expliquer aux électeurs. Parce que des fois, j'ai l'impression que nos politiciens se perdent dans des mesures qu'on appellerait boutique là, en anglais, c'est-à-dire une chose qui peut sembler un peu clientéliste, on donne telle affaire à telle personne et tout, mais c'est bien, 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 bien rare que les gens ils votent sur des choses comme ça. Fait que si le défi, si le mandat, c'est d'aller chercher l'adhésion de la population, qui est, bon, un peu cynique, désenchanté par rapport à ce gouvernement-là qui est là depuis 8 ans, mais il faut trouver une cohérence, il faut trouver un narratif, il faut trouver dans quoi est-ce qu'on s'incarne. Puis ça, le côté politique au sens fort, le côté narratif, j'ai l'impression que c'est peut-être moins une force de quelqu'un comme Mme Fréchette qu'on identifie comme étant plus technocratique, comme étant plus proche de la machine, plus regarder sur les indicateurs économiques, etc. Mais le côté, comment est-ce que je m'enrichis mon action, comment est-ce que je me positionne par rapport aux autres partis, ça veut dire quoi être un caquiste à l'époque de Christine Fréchette? Tout ça, j'ai l'impression qu'il y a encore un petit peu de points d'interrogation qui sont en suspens. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que les oppositions, que ce soit le Parti québécois ou le Parti conservateur, sont en train de cruiser, comme on pourrait dire, assez activement les électeurs qu'on dirait plus bleus de la coalition Avenir Québec. Je pense que ça va être ça, le gros défi de Mme Fréchette en ce moment, parce que s'il y a d'autres gens qui sont plus politiques qui sont meilleures pour arriver avec une histoire de pourquoi tu devrais changer de bord en ce moment, mais peut-être qu'il y en a qui vont le faire. Fait que c'est de voir comment est-ce que tu peux mettre en récit ton action pour rendre ça cohérent, pour aller chercher des gens aussi, puis pour s'incarner vraiment dans la joute politique, puis dire par rapport aux autres, où est-ce qu'on se situe en ce moment.
J'aime beaucoup où est-ce que tu nous amènes, chemin, que cette trame de fond, cette histoire, ce narratif qui devra être recollé. Étienne Alexandre, toujours un plaisir de se parler. On se reparle bientôt.
Absolument, salut.
Salut, Étienne-Alexandre Beauregard, ex-rédacteur de discours pour François Legault. Il a fait ça il y avait 21 ans. C'est quand même assez incroyable, son parcours en politique, malgré son jeune âge. Hey, quel beau texto qu'on a reçu, Pascal. Maman de deux enfants, et on en voulait trois, mais avec les places en garderie inexistantes, c'est très stressant pour le retour au travail. Ouais. Tellement bon point.
Ben, moi, je pense qu'il y a plein d'affaires. Là. Le fait d'avoir de la misère à concevoir puis qu'il n'y a pas vraiment d'études là-dessus, c'est quoi qui a mené à ceci? Plein de scientifiques qui essaient de se poser la question. On n'est pas capable d'avoir de réponse. L'autre affaire, ben, il y a tout cet enjeu-là de garderie, de pouvoir retourner sur le milieu du travail.
Ben oui.
Il y a les prestations d'aide aux parents aussi, là, pendant que tu es en congé de maternité, puis la paternité, tout ça. Es-tu capable d'avoir assez d'argent pour nourrir ta famille?
En
le
effet.
Coût de la vie, la hausse de les loyers. Il y a tellement,
tellement de
facteurs.
Énormément de
facteurs. Les écoles débordent.
Ah oui, je suis content d'avoir eu mes enfants là, de ça, 18 et 16 ans. Me poser un peu moins de questions.
Quand les maisons ont été à 30 000?
Ouais, ben pas 30 000. Mais,
hey, écoute, le plus beau que tu as vu, toi, pour une maison?
Ben moi, le premier jumelé que j'ai acheté, c'est 155 000.
Le jumelé.
Un jumelé. Mais c'est pas cher, là. Les jumelés, là, ça se vend 300 000.
Oui,
là,
mais oui. 88-971-1021.
Ouais,
quelle année, quel genre de maison? Ou
très
autre,
bonne question.
Le moins cher que vous avez eu à payer. Là.
Ouais.
On veut trouver c'est qui a payé pas cher.
Excellente question. Dans quelques instants, Boulevard 102 à l'émission d'Angeance, on parle avec Georges Génie, président de l'Association pour la protection des automobilistes. Faites attention quand vous achetez un véhicule électrique d'occasion. La batterie pourrait être sur le point de vous lâcher. Puis c'est des coûts de 10 à 15 000 $. On en parle avec lui.